21. Il devient le gendre de Pison et le beau-père de Pompée. Vers le même temps, il épousa Calpurnie, fille de Pison, qui allait lui succéder au consulat. Et il donna en mariage à Gnaeus Pompée sa fille Julie, en congédiant son premier fiancé, Servilius Scipion, l'un de ceux qui, peu de temps auparavant, l'avait aidé à se défaire de Bibulus. Après cette nouvelle alliance, il commença dans le Sénat par prendre d'abord l'avis de Pompée, alors qu'il avait coutume d'interroger Crassus le premier, et qu'il était d'usage que le consul conservât toute l'année l'ordre établi par lui au calende de janvier pour recueillir les votes. 22. Il obtient le gouvernement des Gaules, son arrogance. Ainsi, appuyé du crédit de son beau-père et de son gendre, il choisit parmi toutes les provinces romaines celle des Gaules, qui, entre autres avantages, offrait à son ambition un vaste champ de triomphe. Il reçut d'abord la Gaule cisalpine, avec l'Illyrie, en vertu de la loi Vatinia, et ensuite la Gaule chevelue, par un décret des sénateurs qui craignaient, s'il la refusait, que le peuple ne lui la donne également. Il en éprouva une joie qu'il ne put contenir. On l'entendit peu de jours après se vanter en plein Sénat d'être enfin parvenu au comble de ses vœux, malgré la résistance et les lamentations de ses adversaires, et s'écrier qu'il marcherait désormais sur leur tête à tous. « Cela ne sera pas facile à une femme, » répondit une voix pour l'outrager. « Je ne sache pas, » répliqua-t-il, en ayant l'air de plaisanter, « que cela ait empêché Sémiramis de régner sur la Syrie et dont de posséder jadis une grande partie de l'Asie. » 23. Il est cité en justice, ses précautions pour s'assurer l'impunité. Après son consulat, les prêteurs Gaius Memmius et Lucius Domitius demandèrent qu'on examinât les actes de l'année précédente. César déféra l'affaire au Sénat, qui ne voulut pas en connaître. 3 jours s'étant passés en vaine altercation, il partit pour son gouvernement, et aussitôt, afin de constituer à son égard un précédent fâcheux, on traîna son questeur en justice, sous plusieurs inculpations, en vue d'une enquête préjudicielle. Lui-même y fut bientôt cité par le tribun du peuple Lucius Antistius, mais grâce à l'intervention du collège des tribuns, il obtint de n'être pas accusé pendant qu'il était absent pour le service de la République. Aussi, pour se mettre désormais à l'abri de pareilles attaques, il eut grand soin de s'attacher par des services les magistrats en charge chaque année, et il se fit une loi de n'aider de son crédit ou de ne laisser parvenir aux honneurs que ceux qui se seraient engagés à le défendre en son absence, condition pour laquelle il n'hésita pas à exiger de certains un serment et même une promesse écrite. 24. Il oblige Crassus et Pompée à demander le consulat dans son intérêt, sa conduite coupable en Gaule. Mais Lucius Domitius, qui aspirait au consulat, s'étant vanté publiquement d'accomplir comme consul ce qu'il n'avait pu faire comme prêteur, et doté en outre, à César, l'armée qu'il commandait, celui-ci fit venir Crassus et Pompée à Lucques, ville de sa province, et les contraignit de demander aussi le consulat pour en écarter Domitius et faire ensuite proroguer son commandement pour 5 ans, ce qui fut exécuté. Rassuré de ce côté, il ajouta d'autres légions à celles qu'il avait reçues de la République, et les entretint à ses frais. Il en forma même, dans la Gaule transalpine, une dernière à laquelle il fit prendre le nom gaulois d'Aloda, qu'il sut former à la discipline des Romains, qu'il arma et habilla comme eux, et que dans la suite il gratifia tout entière du droit de cité. Il ne laissa désormais aucune occasion de faire la guerre, fût cette guerre injuste et périlleuse. Il attaqua indistinctement et les peuples alliés et les nations ennemies aux sauvages, à tel point que sa conduite fit prendre un jour au Sénat la résolution d'envoyer des commissaires dans les Gaules pour informer sur l'état de cette province. Quelques sénateurs proposèrent même de le livrer aux ennemis. Mais le succès de ses entreprises lui fit au contraire décerner de solennelles actions de grâce, plus longues et plus fréquentes qu'à aucun autre avant lui. 25. Ses expéditions militaires. Voici en peu de mots ce qu'il fit pendant les 9 années que dura son commandement. Toute la Gaule comprise entre les Pyrénées, les Alpes, les Cévennes, le Rhône et le Rhin, c'est-à-dire dans un circuit de quelque 3 200 000 pas, il la réduisit en provinces romaines, à l'exception des villes alliées et de celles qui avaient bien mérité de Rome, et il imposa aux pays conquis un tribut annuel de 40 millions de sesterces. Il est le premier qui, après avoir jeté un pont sur le Rhin, ait attaqué les Germains au-delà de ce fleuve, qui leur aurait infligé de lourdes défaites. Il attaqua aussi les Bretons, jusqu'alors inconnus, les vainquit et en exigea des contributions et des otages. Au milieu de tant de succès, il n'éprouva que trois revers, l'un en Bretagne, où une violente tempête faillit détruire sa flotte, un autre en Gaule, devant Gergovie, où une légion fut mise en déroute, et le troisième sur le territoire des Germains, où ses lieutenants, Titurius et Aurunculeius, périrent dans une embuscade. 26. S'est mené à Rome pendant la guerre des Gaules. C'est dans ce même temps qu'il perdit d'abord sa mère, puis sa fille, et peu après son petit-fils. Cependant, le meurtre de Publius Clodius avait mis le trouble dans Rome, et le Sénat, qui était d'avis de ne créer qu'un consul, désignait nommément Pompée. Les tribuns du peuple lui désignaient César comme collègue, mais ne voulant pas revenir pour cette candidature avant d'avoir terminé la guerre, il s'entendit avec eux pour qu'ils lui fissent plutôt obtenir du peuple la permission de briguer absent son second consulat, lorsque le temps de son commandement serait près d'expirer. On lui accorda ce privilège, et, concevant déjà de plus grands projets et remplis d'espérance, il ne négligea rien pour se faire des partisans, à force de bons offices et de largesses publiques et particulières. Avec le produit du butin, il commença la construction d'un forum dont le terrain seul coûta plus de 100 millions de sesterces. Il promit au peuple, en mémoire de sa fille, un combat de gladiateurs et un festin, ce qui était sans exemple. Pour donner à ses réjouissances le plus d'attrait possible, il ne se rapporta pas seulement aux traiteurs choisis pour cet objet, ses esclaves aussi furent employés. Il avait à Rome des agents qui enlevaient de force pour les lui garder les gladiateurs les plus fameux, lorsqu'ils combattaient devant des spectateurs malveillants. Quant aux élèves gladiateurs, ce n'était ni dans l'enceinte d'une école, ni par des professeurs d'escrime qui le faisaient instruire, mais dans les maisons particulières, par des chevaliers romains, ou même par des sénateurs habiles à manier les armes, et qu'ils suppliaient, ces lettres en font foi, d'entreprendre l'instruction de chacun de ces gladiateurs, et de présider eux-mêmes comme des maîtres à leurs exercices. César doubla pour toujours la solde des légions. Dans les années bonne abondance, il distribuait le blé sans règle ni mesure, et on le vit parfois donner à chaque homme un esclave pris sur le butin. 27. Il augmente par tous les moyens le nombre de ses partisans. Afin de rester le parent et l'ami de Pompée, il lui offrit la main d'Octavie, petite-fille de sa sœur, qui avait été mariée à Gaius Marcellus. Il lui demanda pour lui-même la main de sa fille, destinée à Faustus Sylla. Tous ceux qui entouraient Pompée, et presque tous les membres du Sénat, César les avait fait ses débiteurs, sans leur demander d'intérêt, en acceptant d'eux qu'un intérêt modique. Il faisait aussi de magnifiques présents aux citoyens des autres ordres, qui se rendaient auprès de lui sur son invitation, de leur propre mouvement. Sa libéralité s'étendait jusque sur les affranchis et les esclaves, selon ce qu'ils avaient de crédit sur l'esprit de leur maître ou de leur patron. Les accusés, les citoyens perdus de dettes, la jeunesse prodigue, ne trouvaient qu'en lui un refuge assuré, à moins que les accusations ne fussent trop graves, la ruine trop complète, les désordres trop grands, pour qu'il pût les secourir. À cela, il disait, vertement, qu'il leur fallait une guerre civile. 28. De vives attaques sont dirigées contre lui à Rome. Il ne montra pas moins d'empressement à s'attacher les rois et les provinces dans toute l'étendue de la terre, offrant aux uns, en pur don, des milliers de captifs, envoyant aux autres des troupes auxiliaires, où et quand il le voulait, sans prendre l'avis du Sénat ni du peuple. Il orna de magnifiques monuments les plus puissantes villes non seulement d'Italie, des Gaules et des Espagnes, mais aussi de la Grèce et de l'Asie. Enfin, tout le monde commençait à démêler avec terreur le but de tant d'entreprises lorsque le consul Marcus Clodius Marcellus, après avoir annoncé par un édit qu'il allait prendre des mesures de salut public, fit un rapport au Sénat. Il proposait de donner un successeur à César avant l'expiration de son commandement, puisque la guerre était finie, que la paix était assurée et qu'il fallait licencier une armée victorieuse. Il demandait aussi que, dans les prochaines comices, On ne tint pas compte de César absent, puisque Pompée lui-même avait abrogé le plébiscite rendu en sa faveur. Il était en effet arrivé que, dans une loi portée par Pompée sur les droits des magistrats, et au chapitre où il interdisait aux absents la demande des honneurs, il avait oublié d'excepter César, erreur qu'il n'avait corrigée que lorsque la loi était déjà gravée sur les reins et déposée dans le trésor. Non content d'enlever à César ses provinces et son privilège, Marcellus était encore d'avis de retirer à la colonie fondée par lui un novum commum, en vertu de la loi Vatinia, le droit de cité romaine, alléguant que c'était le résultat de la brique et de la violation des lois. 29. Ses mesures contre ses attaques. Ébranlé par ses attaques, et persuadé, comme il le disait souvent, qu'il serait plus difficile, quand l'État l'aurait pour chef, de le faire descendre du premier rang au second, que du second jusqu'au dernier, il résista de tout son pouvoir à Marcellus, et lui opposa tantôt le veto des tribuns, tantôt l'intervention de Servius Sulpius, l'autre consul. L'année suivante encore, comme Gaius Marcellus, qui avait succédé dans le consulat à son cousin Germain Marcus, suivait le même plan que lui, César s'assura, au prix d'immenses largesses, le concours de son collègue Paul Émile, de Gaius Curion, le plus violent des tribuns. Mais rencontrant partout une résistance obstinée, et voyant que les consuls désignés étaient aussi contre lui, il écrivit au Sénat pour le conjurer de ne pas enlever une faveur accordée par le peuple, ou du moins d'ordonner que les autres généraux quittassent aussi leur armée. Il se flattait, à ce que l'on croit, de rassembler ses vétérans dès qu'il le voudrait, plus aisément que Pompée ne réunirait de nouveaux soldats. Il offrit néanmoins à ses adversaires de renvoyer 8 légions, de quitter la Gaule transalpine et de garder la Cisalpine avec 2 légions, ou même l'Illyrie avec 1 seule, jusqu'à ce qu'il fût créé consul. 30. Il vient à Ravenne, préparé à tous les événements. Mais le Sénat n'eut aucun égard à ses demandes, et ses ennemis refusèrent de mettre en marché le salut de la République. Alors, il passa dans la Gaule citérieure, et après avoir tenu les assemblées provinciales, il s'arrêta à Ravenne, prêt à venger par la force les armes du tribun qui avait embrassé sa cause, dans le cas où le Sénat prendrait contre eux quelque parti violent. Tel fut en effet le prétexte de la guerre civile. Mais on pense qu'elle eut d'autres causes. Gnaeus Pompée disait souvent que, ne pouvant achever les travaux qu'il avait commencés ni répondre, par ses ressources personnelles, aux espérances que le peuple avait fondées sur son retour, César avait voulu tout troubler, tout bouleverser. Selon d'autres, il craignait qu'on ne l'obligeât à rendre compte de ce qu'il avait fait contre les lois, les auspices et les oppositions des magistrats, dont son premier consulat. En effet, Caton déclara plus d'une fois, avec serment, qu'il le citerait en justice dès qu'il aurait licencié son armée. Et l'on disait généralement que s'il revenait sans caractère public, il serait forcé comme Milon de se défendre devant des juges entourés de soldats armés. Ce qui rend cette dernière opinion probable, c'est ce que rapporte Asinius Pollion, qu'à la bataille de Pharsale, César, jetant les yeux sur ses adversaires vaincus et en déroute, prononça ses propres mots. Voilà ce qu'ils ont voulu. Après tant de victoires, j'aurais été, moi, Gaius César, condamné par eux, si je n'avais réclamé le secours d'une armée. Certains auteurs pensent qu'il était dominé par l'habitude du commandement, et qu'ayant pesé les forces de ses ennemis et les siennes, il avait cru devoir saisir l'occasion de s'emparer du pouvoir suprême, objet de tous ses vœux depuis sa première jeunesse. Telle paraît avoir été aussi l'opinion de Cicéron, qui nous apprend dans le 3e livre du traité des devoirs que César avait sans cesse à la bouche ces vers d'Euripide dont il nous a donné la traduction. Pratiquez la vertu, mais s'il vous faut régner, vertu, justice et loi, sachez tout dédaigner.